Et c'est maintenant la chronique de Daniel qui nous parle de Dan Desorme. C'est comme ça qu'il faut le prononcer?
Oui, Dan Desorme.
Desorme.
Oui, Desorme. Puis ben là, on dit White is White. Ben lui, c'est le chirurgien d'espadrille. Puis il s'organise pour que le White soit White sur une espadrille. Donc, il redonne vie à des espadrilles incroyables. C'est un métier plutôt inusité, hein, autant le dire. Alors, on le surnomme le chirurgien d'espadrilles, the King's Surgeon. Il nettoie et remet justement à neuf des paires de Nike, de New Balance, Adidas. Il fait aussi, dans la spécialité, le Dior, Burberry, Dolce Gabbana et Converse pour enfants, pour bébés. Alors, c'est un emploi, par contre, c'est pas un emploi à temps plein pour lui. Autant vous dire que Dan Desorme a 25 ans. Donc, il fait ça en parallèle avec ses études. Mais son travail de redonner vie à des espadrilles, il le fait de façon très sérieuse. C'est un jeune homme qui vient de Parc Extension, qui vient d'un milieu pas nécessairement favorisé. Qui a vécu avec une maman monoparentale. Donc, c'est un garçon qui a beaucoup d'initiatives, vous allez remarquer, vous allez voir. Sa vocation pour sauver des chaussures, ben ça lui est venu pendant la pandémie. Alors, comme il aime être actif en général, il aime pas rien faire. Donc, il a proposé à des amis de laver leurs souliers. Puis lui, ben en même temps, il écoutait de la musique, puis ça lui permettait de relaxer. Les copains ont dit, mon Dieu, on est tellement satisfaits du résultat qu'on lui a proposé justement, ben lance-toi en affaires. Et maintenant, il est inscrit au registraire des entreprises du Québec. Rapidement, ben évidemment, il y a eu le bouche à oreille qui a porté ses fruits. Et les clients ont tellement apprécié son travail et son service à la clientèle que maintenant, il a beaucoup plus de clients, même à l'extérieur de Montréal. Alors, Dan s'occupe de la cueillette des souliers souliers à nettoyer jusqu'à leur livraison. Quand il a terminé son boulot, ça, il peut le faire dans le Grand Montréal. Par contre, il y a des commandes de l'extérieur, mais pour ce faire, si vous voulez avoir les services de Dan, il faut remplir un formulaire en ligne pour choisir parmi les trois services qu'il offre. Bon, les formulaires, moi, j'ai vu en cherchant qu'on peut trouver Dan Desormes via Instagram. Moi, je suis moins Instagram, mais pour les gens qui sont habitués, ce serait l'endroit parfait. Donc, les trois services. Le service, on dit ordinaire, je dirais plutôt de base, est de 30 $. Quand on fait un travail en profondeur, on y ajoute un 10 $, donc 40 $. Et là, on parle de chirurgie. S'il y a une opération chirurgicale, c'est 60 $. C'est quoi une opération chirurgicale? Ben, c'est la réparation de trous, de fermeture éclair et de fermoir. Et on peut avoir aussi une restauration de la couleur. On peut aussi, Dan propose de payer un petit extra pour un blanchiment des semelles, d'où le White is White. Là.
Le White is White, en passant, Daniel, c'est un homonyme de White is White de Michel Delpech. Lui parlait de White en White, W-I-G-H-T, le mot poids en français.
Ben, voyez-vous le son? Alors, oui. Ben moi, je vais vous parler du blanc.
Oui, le blanchiment, non pas le blanchiment de dents, mais le blanchiment des semelles.
Le blanchiment des semelles. Et puis, donc, il propose un extra pour un blanchiment des semelles et un service express et tout ça en moins de 48 heures. Une autre chose, tu sais, les espadrilles comme les casquettes, il s'occupe aussi des casquettes, mais des chaussures. Vous savez, les odeurs, hein, c'est des matériaux synthétiques. Donc, il peut aussi faire chasser les mauvaises odeurs et les taches d'une casquette.
Mais coudonc, c'est un cordonnier plus.
Ben, c'est plus, puis leur redonner la forme. Parce que comme il dit, c'est la grosse période en ce moment, puis les gens aiment ça, avoir une belle semelle blanche, une belle espadrille, un beau petit bijou, une belle jupe, un beau pantalon, etc., puis être beau quand on sort. Donc, lui, il est là pour redonner vie à tout ce beau monde-là, à tous ces beaux articles-là. Bien, aussi, il y a le contexte économique et écologique qui vaut, pour lui, vaut mieux de nettoyer que d'en acheter une nouvelle paire, surtout que ça coûte cher. Quand il y a aussi des espadrilles rares et de collection, il raconte qu'il a même eu un client de Québec qui lui a fait parvenir par livraison, c'est Nike, de la collection de feu Kobe Bryant, qui était le superstar de basketball des Lakers, qui est mort tragiquement il y a peut-être 2-3 ans dans un accident d'hélicoptère. Il a aussi eu un autre client qui lui a confié une paire de Jordan 1 d'une valeur de 2 000 $.
Oh,
rien de moins. Oh que oui.
Ça vaut la peine de les faire réparer.
Absolument.
Restaurer.
Oui, restaurer le tout. Alors, il y a ces petits trucs, hein, comme une bonne sauce, là. Il y a la sauce du chef, on dévoile pas la recette. Donc, Dan Desorm utilise une solution magique et plusieurs types de brosses selon la rigidité du tissu ou du cuir. Il estime qu'il peut nettoyer, quand tout va bien, là, une 20aine de paires d'espadrilles et de souliers par semaine. Et actuellement, comme je le mentionnais, c'est la saison très occupée. Bon, qui est ce jeune homme-là, Dan Desorm, ce fameux chirurgien? Ben, je vous mentionnais qu'il a vécu dans le quartier Parc Extension. Et jusqu'à l'an dernier, il a un amour pour les espadrilles, mais jusqu'à l'an dernier, il était membre des Stingers, l'équipe de football de Concordia. Il jouait la position comme demi-défensif. Il a, en plus de ça, c'est un grand sportif, il a pratiqué sérieusement le basketball et le soccer. La musique est une autre de ses passions. Il a joué du tuba dans son programme de musique lorsqu'il fréquentait l'école primaire Le Plateau et l'école secondaire Pierre Laporte. Actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit des études parce qu'en parallèle, je vous mentionnais qu'il fait son travail, mais qu'il étudie aussi. Il poursuit des études supérieures à l'Université Concordia. Il étudie pour devenir directeur sportif au niveau secondaire et collégial. Il réitère que pour lui, là, le sport a toujours été une passion et que son objectif éventuellement, c'est de redonner cette passion auprès de jeunes, de redonner en étant un mentor. Il veut redonner à travers le sport. Il est déterminé justement à le faire parce que, comme il mentionne, j'ai grandi avec une mère monoparentale. Il a aussi un petit frère. Et il a vu aussi combien c'est dur d'être une mère seule et d'élever 2 garçons. Donc, à travers le sport, les coachs l'ont encouragé à rester à l'école et à continuer. Donc, pour lui, c'est important parce que ces gens, ces coachs-là, c'était en quelque sorte des figures paternelles parce qu'ils voyaient que des hommes qui réussissaient à croire, qu'il y avait des hommes qui réussissaient à croire en lui et ça l'a poussé à exceller à l'école et à continuer dans le sport. Et d'ailleurs, dans l'article de la presse, il fait un petit clin d'œil à son professeur d'éducation physique, Gabriel Torrado, de l'école secondaire Pierre Laporte. Parce que, comme il mentionnait, à cette époque-là, il était pas mal turbulent en classe et M. Torrado, c'est-à-dire, a cru beaucoup en lui. Donc, j'ai vu à quel point une personne qui a ta réussite à cœur peut t'amener quelque part et ça a vraiment un apport significatif. Il aimerait, comment il voudrait redonner dans son quartier Parc Extension en organisant des activités, faire en sorte que les jeunes aient une vision positive de leur quartier. Il veut qu'ils aient de la nourriture parce que c'est une chose qui peut manquer des fois, de manger à sa faim. De la musique aussi parce que c'est une de ses passions. Et que les gens qui réussissent puissent être accessibles pour ces jeunes afin de les motiver. Puis quand il en parle, il y a les étoiles dans les yeux parce que lui, il sait de quoi il parle à ce moment-là. En plus de comprendre les jeunes, il estime qu'il faut leur faire savoir qu'il y a dans la vie des passions et des moyens de s'en sortir sans rester dehors dans la rue et faire peut-être des mauvais coups ou encore tout simplement à rien faire et à fréquenter des gens qui ont une mauvaise influence. Alors, pour ce jeune homme, Dan Desorm, qui est le chirurgien des espadrilles, ben, il va voir où la vie le mène. Et puis, en tout cas, de ce qu'on peut lire, de ce que j'ai pu lire, ça semble être un jeune homme avec une force assez tranquille.
Alors, le chirurgien des espadrilles, il porte d'ailleurs son tablier sur lequel on peut lire Kicks Surgeon.
Oui. Tout à fait. Puis, si vous voulez, il y a des formulaires. Ça serait sur Instagram si vous désirez obtenir ses services, puis même à l'intérieur, autour de Montréal, ou encore, comme d'autres qui ont envoyé par livraison leurs belles espadrilles, n'hésitez pas, c'est le chirurgien par excellence.
Oui. On ne parle pas de prix, hein, par exemple?
Oui, j'en ai parlé.
Ah, désolé.
Oui, un service de base, 30 $, un service, en profondeur, 40, ou encore, si vous voulez, une opération chirurgicale, 60 $. Une opération, c'est quoi sur une espadrille? Ben, c'est des trous, c'est des fermetures éclair, des fermoirs qui ferment moins bien, et ou encore une restauration de la couleur, si jamais vous désirez revoir l'espadrille telle qu'elle était lorsque vous l'avez achetée.
Bon, c'est quand même assez raisonnable, hein, parce que une paire d'espadrilles, ça coûte assez cher. C'est rare qu'on en trouve à 60 $.
Plutôt.
Merci, Danielle. Après la pause, on va écouter une chanson d'Ariane Roy et puis notre ami Daniel qui sera de retour pour nous parler de l'origine des plantes artificielles. Est-ce que vous aimez ça, vous, des plantes artificielles?
Vous pouvez rejoindre notre équipe.
De retour à Daniel, pas pour nous parler de plantes rampantes ou grimpantes, mais plutôt de plantes artificielles. Daniel Rioux, c'est pas d'hier, ça date pas d'hier.
Bien non, d'ailleurs, il y a un article paru récemment dans la presse dont vous avez parlé, hein? Les plantes artificielles qu'on peut voir un peu partout dans le Vieux-Montréal.
Oui, les fleurs qui sont de plus en plus populaires. Oui. Il y en a beaucoup en Europe et ça arrive à Montréal.
Bien, c'est ça, ça arrive à Montréal, puis là, on parle d'écologie aussi. Donc, mais c'est pas d'aujourd'hui. Elles sont apparues en Égypte. On parle de plusieurs milliers d'années là. Alors, ils fabriquaient ces plantes, ces fleurs ornementales. Ils utilisaient des matériaux, les Égyptiens, qui étaient soigneusement choisis, justement pour leurs propriétés ornementales. Certaines espèces de fleurs se sont aussi vues immortalisées grâce aux matériaux qu'ils utilisaient. On pense à la corne colorée, le bambou ou encore l'utilisation de la pierre. Les fleurs artificielles, c'était surtout des éléments décoratifs qui était réservé, bien évidemment, parce qu'on devait avoir des artisans spécialisés, c'était surtout pour réserver aux pharaons, entre autres. L'apparition des fleurs et des plantes artificielles en Europe date du Moyen Âge. Elles sont introduites en France par des Italiens, experts justement dans l'élevage du ver à soie. Alors là, ça nous amène à la roue de la soie, etc., cette belle grande époque de Marco Polo aussi. Les matériaux utilisés pour la confection de ces fleurs, ben c'est le lin, la soie et le velours. C'était travaillé par des artisans qu'on appelait des bouquetiers décorateurs. Sous le règne de Louis XVI, Paris devient la capitale mondiale de la fleur artificielle. Il y a la Révolution française qui a marqué un coup d'arrêt, justement, au développement de cette industrie. Et certains des bouquetiers décorateurs sont allés vers Londres, où ils développent justement une belle et prospère économie, justement, de la plante artificielle. Et ça, c'est juste au début de l'époque victorienne, là. Je dirais 1800, à l'arrivée de la reine Victoria, 1818 autour. En France, la profession va réapparaître progressivement sous la Restauration et va connaître son apogée durant la seconde moitié du 19e siècle. Et au début du 20e, il y a une grande partie de la production qui est élaborée à Paris. En 1908, on estime que près de 30 000 personnes travaillent pour cette industrie de fleurs artificielles seulement dans la capitale. Leurs produits sont ensuite exportés à travers le monde et la production de fleurs artificielles par la suite est progressivement délocalisée vers les États-Unis et à cause de la rapidité du travail qui était fait, c'est une des raisons, c'est qu'une ouvrière confectionne à cette époque une fleur en un seul jour à New York, alors que la même fleur à Paris prendrait 4 jours. Donc ici, on est allé plus pour le travail à la chaîne, ça roulait plus vite, donc ça a été florissant, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, maintenant, les fabricants chinois et hollandais sont les leaders mondiaux dans la fabrication des plantes et des fleurs artificielles, hein, d'où dans les doloramas, on peut en trouver. Là.
Ça sent tellement bon.
Ah, ça sent bon, puis les pétales tombent pas. Je t'aime pas. Alors, ils utilisent, eux, du latex, donc pas des produits naturels, du latex pour reproduire des orchidées, et ils vont utiliser du velours pour concevoir les pétales des roses. Il y a une technique dite de la fresh Touch, qui est conçu à partir d'un mélange de tissu et de tergal. Tergal, c'est un type de tissu, j'imagine, permet des compositions d'une grande richesse artistique. Et ça a été délaissé depuis les années 50. On a délaissé un peu la fleur artificielle, mais maintenant, elle a repris de la vigueur. Peut-être, je te propose de la vigueur pour faire une petite rimette pour notre malheur, parce que à cause de du côté de l'artificiel, du non écologique aussi. Puis même, je lisais que à Marseille, où il y a des éléments décoratifs ou des bords de mer, les gens là-bas disent non, on n'en veut pas de ça parce que c'est dangereux pour que ça soit transporté dans la mer, puis que ça affecte la
encore
faune.
Encore plus de plastique.
Ben oui, encore plus de plastique. Alors, c'est l'histoire, pour compléter votre série ou dans le sujet dont vous avez parlé, des fleurs artificielles, ça vient d'où? Ben, ça venait de l'Égypte.
Oui, alors si je comprends bien, il n'y a pas de plantes ou de fleurs artificielles dans votre jardin.
Oh non, du tout, loin de moi.
Parce qu'il y en a qui veulent fleurir leur cour ou leur balcon, puis ils se disent, ben, j'ai pas le temps d'entretenir quoi que ce soit. Alors, c'est le choix qu'ils font. Et puis, peut-être un des autres avantages, c'est que les plantes et les fleurs artificielles, quand on les achète, elles conservent leur taille.
Oui, ben c'est ça, leur taille, pas besoin de les arroser, pas de mauvaises herbes, rien, mais ça fait partie du jardinage d'aller jouer, papoter dans la terre.
Ben oui, pour ceux et celles qui aiment jardiner, c'est sûr qu'on n'achète pas des plantes artificielles. Il y en a des belles quand même, je suis pas pro plantes ou fleurs artificielles, mais il y en a là, vraiment que c'est hallucinant, on a l'impression que c'est vraiment naturel.
Ben, est-ce que vous êtes déjà surprise à aller toucher une plante?
Oui.
Oui, bon, c'est ça.
On est un aloès, entre autres.
Ah, ben moi, c'est des plantes, mettons, des plantes comme un chiffléra, là. Je vais aller toucher, est-ce que c'est un vrai, un faux, là, je vais avoir l'air folle. Mais non, ça fait rien, je vais toucher quand même.
Ah oui, vous êtes curieuse jusqu'au
bout.
Ben
oui, jusqu'au
merci,
bout.
Danielle, on se retrouve non pas lundi prochain, mais l'autre lundi, soit le 10 juin, on va être déjà en juin.
Ben oui, je vais vous retrouver à ce moment-là avec grand plaisir.
À bientôt, portez-vous bien.
Merci, au revoir.